Pavillon Nomade. Le direct.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme tous les jeudis 15h30 sur les ondes de Pavillon Nomade. Alors aujourd'hui on a plein de nouveaux, on a le retour d'Anaïs. Bonjour Anaïs.
Bonjour Jimmy.
Anaïs à la co-animation avec moi et puis aujourd'hui on a autour de la table de nouveaux participants. On a Mariana, on a Roberta, on a Fiona, on a Sabine, on a Eliane et on a un invité d'honneur aujourd'hui autour de la table. Alors que vous avez certainement peut-être déjà entendu dans quelques émissions, mais c'est en tout cas grâce à lui. Depuis une année bientôt, que je remercie déjà à la technique, c'était Mathéo. Bonjour Mathéo.
Bonjour.
Alors peut-être que vous allez nous introduire, qui va vous remplacer avant qu'on vous pose des questions et qu'on revienne sur votre parcours. Vous allez peut-être nous introduire la personne qui reprend finalement les commandes de la technique derrière les platines.
Et oui, il est déjà là, il s'entraîne. Julien Morand, mon cher collègue.
Julien, merci. Oui, on applaudit. D'ailleurs, ça s'applaudit hein, parce que c'est une grande première, hein. Une arrivée et un départ. Alors déjà, Mathéo, je tiens déjà à vous remercier pour tout ce que vous avez mis en temps, en bénévolat, par rapport à ce super projet qu'est la radio. Et on est passé un peu par des moments juste impressionnants, incroyables. Déjà, peut-être pour nos auditeurs, auditrices, pour construire un petit peu cette émission, rappeler un petit peu le sommaire de l'émission avant qu'on revienne avec Mathéo et son interview. Donc restez bien à l'écoute. Aujourd'hui, donc l'interview de Mathéo, on va poursuivre avec un thème sur l'histoire proposée par Fiona. On aura les mythiques rencontres de Marie-Claude. Aujourd'hui, c'est le dernier opus concernant Monsieur Rebellet. Et ensuite, on aura un témoignage de Mariana. Donc auditeurs, auditrices, restez à l'écoute. On va passer une après-midi juste incroyable. Donc Mathéo, finalement, comment vous êtes arrivé au quartier culturel? Parce que, si j'ai bien saisi, vous êtes civiliste, il me semble.
C'est ça, exactement. Et donc, si je suis là, c'est parce que je ne voulais pas faire l'armée. Parce que j'aime bien manger, on mange mal là-bas, en général. J'aime bien dormir, on dort mal là-bas, en général. J'aime bien les choses logiques, on fait plein de trucs illogiques là-bas. Du coup, c'était un petit peu la solution. C'était soit ça, soit je faisais genre d'être pas capable de faire l'armée et je me retrouvais à payer. Donc j'ai préféré cette solution-là.
Mais généralement, les civilistes, ils vont souvent dans des lieux de soins. Alors, on est dans un lieu de soins, mais ils arrivent généralement, la plupart j'ai rencontré. Mais comment arriver au quartier culturel en tant que civiliste? Parce que ça, c'est quand même pas commun.
Alors, c'est un peu un concours de circonstances, entre guillemets. J'avais déjà... En fait, quand on veut faire le service civil, on se retrouve à devoir faire pas mal de démarches. Parce qu'ils aiment bien compliquer un peu le processus pour que les gens se posent pas trop la question et aillent quand même à l'armée. Et j'ai fait ces démarches. Et après, on se retrouve avec une longue liste de plein de places de civilistes dans toute la Suisse. Et puis, j'ai enlevé un petit peu ceux qui m'intéressaient pas, ceux dont j'avais pas la formation nécessaire pour faire. Certains demandaient un permis de conduire. Malheureusement, j'ai pas le permis. J'en ai un peu honte, mais c'est le cas. Et... il s'avère qu'il me restait au final 3-4 places disponibles en Valais. Et j'étais venu une fois ici à Malévaux. Je ne connaissais pas vraiment l'endroit, le quartier culturel absolument pas. Mais, petit détail, mon cousin était venu aussi faire et j'avais entendu, mais de très loin, que c'était sympathique. Alors je me suis dit, je vais aller voir, puis j'ai pris contact avec Julien, c'est lui qui m'a dit de venir en visite. Je suis venu visiter comme ça, sans CV, sans lettre de motivation, juste pour une visite. Et puis j'ai rencontré notre cher Gabriel Binder aussi.
Qu'on salue d'ailleurs, qui doit nous écouter.
Qu'on salue fortement.
Il est en vacances, bonnes vacances Gabriel.
Et il m'a dit, tu voudrais faire combien de temps? Je lui ai dit, le plus longtemps possible, parce qu'en soi... c'est un petit peu plus long que l'armée, c'est 12 mois en tout. Mais on peut faire en période séparée sur 10 ans. Et moi, je voulais régler cette histoire-là. Donc, j'ai dit le plus longtemps possible. Il m'a dit à partir de quand? Moi, je faisais rien. J'ai dit le plus tôt possible. Il m'a dit, ça me va très bien. Alors, je te prends. Et puis, je suis reparti et j'étais engagé.
Alors, merci déjà pour ce début. Quelles questions vous auriez envie de poser à Mathéo autour de la table pour apprendre à connaître un peu ce personnage, Eliane?
Mathéo.
Oui.
Vous voilà en fin de contrat avec nous et je voulais vous féliciter pour la fête de la Saint-Nicolas.
Merci.
Ce que j'oublierai jamais, tellement c'est amusé. Et puis, je me demande, est-ce que nous, on va vous manquer ?
Bah, bien sûr, et il y en a déjà qui me manquent déjà, qui sont déjà partis. J'ai rencontré plein de monde. Je ne suis pas le premier à partir d'ici et je ne serai sûrement pas le dernier, mais c'est vrai, là, plus ça s'approche, plus je me rends compte que ça se réalise. J'ai longtemps été un petit peu dans le déni. On me demandait, ah, ça va te faire bizarre de partir. Là, je pars demain. Ouais, je dois avouer que ça commence à me faire un peu bizarre.
Merci.
Merci. Mais pour nos auditeurs, auditrices qui ne vous connaissent pas, vous décririez comment et vous venez d'où ? Vous avez grandi où ?
Alors, moi, je suis originaire de Sierre. Je suis né à Sierre, j'ai grandi à Sierre et j'habite toujours à Sierre. Alors, voilà, ma vie, c'est Sierre.
Un vrai Sierrois, représente Sierre. Fiona ?
Je voulais te demander quelle est l'histoire qui t'a le plus marqué ici à Malévo ?
Alors, il y en a. Il y en a 1000. Ceux qui m'ont marqué, déjà, je peux dire par rapport à la radio. Alors, il y en a aussi pas mal. J'ai souvenir d'une discussion sur les tatouages assez virulente entre Suzanne, à qui je passe une grande dédicace aussi. Je suis un peu déçu qu'elle ne soit pas là pour ma dernière émission.
Ah bah, si elle nous écoute, hein, Suzanne, vous avez encore le temps d'arriver. Hein.
Et une ancienne patiente aussi, Bernadette, pour ceux qui s'en souviennent, qui était absolument génial. Et ouais, ça m'a fait rire, mais rire. Je pourrais le réécouter encore maintenant. Faut aller écouter l'épisode sur les tatouages.
L'épisode sur les tatouages. Alors, on essaiera de le retrouver. D'ailleurs, vous pouvez nous retrouver en direct sur pavillonnomade.ch et en rediffusion sur le même site. Il suffit d'aller sur le site et d'aller dans rediffusion et vous retrouvez toutes les émissions qui existent depuis déjà plus d'une année et demie. Et vous retrouverez en cherchant certainement que peut-être l'intitulé doit être tatouage. Alors, je ne sais pas si autour de la table, il y aurait des personnes qui ont envie de poser des questions et de profiter que Mathéo soit là pour sa dernière en direct. Sabine ?
Oui. Voilà. Qu'est-ce qui va le plus te manquer ?
Ah, c'est dur. C'est une très dure question. Je pense, en tout premier, je pense à mes collègues, déjà, avec qui, franchement, je me suis tous très bien entendu. Certains, j'ai pris un peu plus de temps à les cerner que d'autres. Je pense à Alex, par exemple, que j'avais un peu de peine avec lui au début, mais en fait, c'est juste le roi, le grand roi Alex. Guillaume aussi, c'est les deux avec qui j'ai passé le plus de temps parce qu'ils étaient au jardin et puis j'ai passé beaucoup de temps dans les jardins et dans les cuisines. C'était un peu mes référents. Mais tout le monde, finalement, Elvio.
Bah, finalement, comme on est dans un interview confidence, mais qui ne va pas te manquer ? Non, non, je rigole.
Alors,
je rigole. La liste serait trop longue. Non.
La liste serait trop longue.
Mathéo, vous avez... comment vous êtes venu à intégrer cette radio ? Parce que j'imagine que vous avez eu la possibilité, dans le cadre donc, de cette période de civilis, les activités proposées par le quartier culturel sont quand même très variées. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de déposer vos valises et de marcher un petit moment avec Pavillon Nomade ?
Alors, maintenant... Je sais plus. Ah oui, je me rappelle. C'est juste que il y avait une stagiaire quand je suis arrivé qui s'appelait Lila et j'ai un peu repris certaines de ses tâches vu qu'elle allait partir et puis que j'étais un des seuls à ce moment-là. Il n'y avait pas de stagiaire ou d'autres civilistes, donc j'ai repris un peu ses tâches, le karaoké et la radio notamment.
Oui, d'ailleurs Lila Chamartin qu'on salue, d'ailleurs qu'on profite de saluer parce qu'elle a été aussi au départ de ses émissions en live et première technicienne de Pavillon Nomade.
Et puis Mathéo, donc je pense que votre parcours va inspirer de nombreuses personnes. Et puis je voulais vous demander, c'est quoi les projets pour la suite ?
Alors ça, c'est une très bonne question, la fameuse question tant attendue et tant redoutée surtout.
Je crois qu'il va aller faire l'armée.
C'est ça, il manque un petit peu de tout compte fait. En fait, je sais pas vraiment. J'ai fait école de commerce. Donc, ce qui est assez différent du métier que je fais, entre guillemets, actuellement, qui est pas vraiment... Enfin, c'est un métier, mais que je ne saurais pas décrire c'est quoi. C'est tellement varié et vaste en soi. Donc, mais en tout cas, ça m'a beaucoup remis en question sur mon futur professionnel parce que l'école de commerce, ça me branche qu'à moitié finalement. Quoi. Bah, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. C'est une très bonne formation de base. Mais je me tâte entre prendre un peu de temps. J'ai un voyage qui est organisé là déjà. Je vais partir pendant un ou deux mois en Asie. Et après ça, à ce retour, je me tâte encore entre travailler, faire un peu d'argent et repartir en voyage ou continuer une formation, peut-être universitaire, peut-être une autre école en social, justement. Je ne sais pas, toutes les portes sont encore là.
Vous vous laissez guider.
C'est ça, je me laisse guider.
Exactement. Fiona, vous voulez rebondir ?
Oui, je voulais vous demander quelles sont vos émotions durant cette dernière diffusion ?
Alors, pouf ! Franchement, alors,
Fiona qui est parce que auditeur, auditrice, vous n'avez peut-être pas les images, mais Fiona qui est porte-parole de la question qui était posée délicatement par Roberta. Vous avez vu comme je suis taquin quand Roberta, mais merci d'avoir posé cette question, les filles.
Je crois que c'est une forme de nostalgie un petit peu, alors que j'y suis encore, c'est bizarre, mais en fait, je repense aussi à toutes ces émissions, de me dire que c'est la dernière, ça me plaît qu'à moitié, mais une forme de tristesse, mais ça va, je suis pas à plaindre non plus, seulement c'est vrai que ça me fait un petit peu, ça me fait surtout bizarre en fait.
Vous allez être dans un processus de transition.
Ouais, un deuil déjà à faire.
On sent l'infirmière qui parle, mais vous avez raison, hein, c'est des transitions qu'on vit tous dans notre vie d'ailleurs. Moi, je suis très ému, Mathéo, parce qu'à la base, je ne devais pas être ici à l'émission. Ça me permet de saluer notre ami Elvio qui s'est malheureusement, au vu de ce que j'ai compris et des photos que vous avez vues, s'est pété le doigt de pied. Donc Elvio, on te donne plein d'énergie, plein de courage pour revenir en forme la semaine prochaine en présence de Marie-Claude. Mais c'est vrai que moi, je suis ému parce qu'à la base, il y avait une certaine frustration. On a fait l'émission ensemble la semaine passée, et qui était la dernière en tant que technicien. Et puis, j'étais un peu frustré de me dire, je devais venir que seulement 5 minutes pour te remercier, discuter. Et puis finalement, le hasard des choses fait que des fois, c'est bien fait. Alors non pas que Mathéo soit cassé le pied, hein, mais ça nous a permis de pouvoir créer une émission un petit peu comme ça, au vol, et de vous avoir autour de cette table. C'est parce qu'on vous a eu derrière les platines, mais de vous avoir à côté avec ce sourire juste incroyable et après ce travail merveilleux. Alors, ça n'a pas été tous les jours facile, hein, Mathéo, hein, il me semble, hein, cette vie de technicien.
Alors, non, ça n'a pas toujours été facile de travailler. J'ai fait, mais quand je venais à la radio, en règle générale, ça me remontait le moral et c'était vraiment, j'attendais presque ça parce que je ne me suis jamais ennuyé. Je me suis toujours bien marré. Après, des fois, j'ai fait quelques gaffes, Mais ça va, c'est pas ce qu'on retient, en tout cas, j'espère.
Non, on retient pas, mais c'est vrai que ça s'apprend, c'est un métier qui s'apprend. Est-ce que c'est dans l'expérience que vous avez vécue, là, d'avoir eu l'occasion d'être à l'élaboration, à l'accompagnement de ce projet-là, est-ce que ça vous a peut-être donné envie de, un jour, rééditer l'essai, ou carrément peut-être de vous lancer dans le média ?
Bien sûr, franchement, je me suis clairement posé la question. Maintenant, j'écoute toujours la radio d'un autre œil. Quand je sais la façon dont c'est fait, ouais, moi, j'ai adoré, vraiment adoré cette expérience. Et ouais, je pense que ça a semé une graine qui poussera peut-être un jour.
Eh ben merci Mathéo, en tout cas, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je vous remercie encore pour toute cette période. Ah, alors on a peut-être encore une question qui vient. Alors, on n'est pas comme ça. Il y avait une petite question d'ailleurs, Roberta. Allez, je suis sûr que vous allez... Non, non, alors elle me fait avec des grands signes que non. Donc elle va le donner à son porte-parole. D'ailleurs, le porte-parole qui nous proposera tout à l'heure, après l'internet musical, de revenir sur le thème de l'histoire.
Oui, alors moi je suis le Fiona, porte-parole de Roberta. Donc, la question, c'est avec quel outil appris ici repartez-vous ?
Mais tellement. Des outils, comme j'ai dit, j'ai fait beaucoup de jardinage, donc j'ai appris énormément de choses sur les plantes, les semis, l'occupation, comment s'occuper finalement de plantes. J'ai appris beaucoup de notions en cuisine, parce que tous ces produits qu'on cultive, on les transforme. J'ai appris donc des notions techniques en faisant la radio. J'ai appris des notions évidemment sociales en côtoyant des personnes qui sont en difficulté ici. Et j'ai appris à chanter. Non, ça c'est pas... <J'ai> pas... j'ai appris à me dépasser. Non, j'ai appris tellement de choses que je pourrais pas... J'ai cité déjà une bonne partie.
En tout cas, en vous entendant, on se dit qu'il n'y a plus personne qui voudra faire l'armée.
Alors, je conseille, si je peux passer un appel à tous ceux qui nous écoutent, ne faites pas l'armée, venez au quartier culturel de Malévo. Et s'il y a une guerre, on s'en fout.
Alors, on s'en fout, on verra. On aura peut-être l'occasion d'en parler. En tout cas, Mathéo, encore un grand merci pour tout ce que vous avez amené, pour merci votre gentillesse, votre humanité. Humanité, parce que Mathéo était aussi, c'est pas évident, je m'imagine, d'être à la technique et de vouloir aussi participer de manière active dans l'écoute, et qui a valu peut-être à quelques moments ces petites, on pourrait dire, bafouilles d'un point de vue technique. Mais sachez que j'ai passé vraiment, et on a tous passé au nom du Pavillon Nomade, je vous remercie pour tout ce que vous avez apporté à l'équipe, aux bénéficiaires de soins. Et pour nos auditeurs, auditrices qui nous raccrochent ou qui raccrochent le wagon, on vient de terminer l'interview de Mathéo, qui était notre technicien et qui va partir sur de nouveaux cieux. On aura par la suite l'histoire, aussi les rencontres de Marie-Claude et le témoignage de Marina. Restez à l'écoute, restez présents pour cette suite d'émissions. Anaïs, vous avez proposé, quand on essayait de construire l'émission, vous avez proposé une chanson d'AC/DC, si je ne me trompe
pas. Oui, c'était Thunderstruck de AC/DC.
Right.
retour en direct sur les ondes de Pavillon Nomade après ce super morceau de Thundertruck de AC/DC, alors qu'il ne nous a pas rajeuni pour certains, mais en tout cas qui nous a réveillés. J'espère, auditeurs, auditrices aussi, que ça vous a donné la patate et que ça vous a donné envie de réécouter quelques vieilles galettes, que ce soit en CD, en DVD ou en vinyle. Fiona, vous nous avez proposé aujourd'hui un thème, le thème sur l'histoire. Mais alors, est-ce que vous êtes d'accord de nous faire un petit explicatif avant de lancer les débats de pourquoi vous nous avez proposé ce thème aujourd'hui ?
Alors, j'ai choisi ce thème parce que je suis étudiante et en fait, j'ai des examens à la rentrée et dans un examen en histoire sur la marche à la Deuxième Guerre mondiale. Et je trouvais ça intéressant en fait d'apporter ce sujet ici.
Intéressant pour quelle raison ? Parce que c'est vrai, dans le contexte de Pavillon Nomade, alors de là où on est, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce thème-là ?
Moi, ce que j'aime dans ce thème, c'est qu'on peut avoir, en fait, on peut partager ce qu'on pense, par exemple, sur les conflits actuels ou les conflits qui se sont passés avant. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant, en fait, de voir ce que les gens en pensent. Et voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui.
Donc, si j'ai bien compris, vous êtes étudiante dans quel domaine ?
Alors, je suis étudiante à l'ECCG et je suis dans la filière santé.
Ok, l'ECCG, c'est l'école de culture de commerce générale, de culture générale. Hein, c'est bien ça, hein, vous êtes dans la filière santé parce que vous avez envie d'être plus tard.
Non, j'ai pas du tout envie de faire un métier dans la santé, en tout cas.
Ah ben, c'est jamais.
Ça, en tout cas, on est sûr. Mais en fait, c'est pour que ma passerelle d'OUPS se fasse plus facilement, vu qu'il y a de la chimie, de la physique, etc. Donc, de voir en fait, déjà ces bases ici, c'est plus facile pour moi. Et non, en fait, plus tard, j'aimerais bien partir à Genève, à l'Université de Genève, et pour faire relations internationales.
Wow, alors ça, relations internationales, à l'heure actuelle, on est en train de vivre un moment quand même important dans le monde de l'histoire. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ce qui se passe autour avec, on parle souvent de ce terme de géopolitique.
Oui, alors moi, le thème qui m'intéresse le plus, on va dire, et qui me fait le plus du mal, c'est le conflit israélo-palestinien. C'est un conflit qui, je trouve, les médias, les radios déshumanisent énormément le peuple palestinien. Et en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que de comprendre l'histoire, de comprendre comment ça s'est passé, etc. Et ce qui me fait, bah, oui, ça me fait du mal de voir en fait la déshumanisation de ce peuple qui vit quelque chose d'atroce.
Alors, pour rappeler à nos auditeurs, auditrices, chacun est libre d'exprimer son avis, ses volontés. L'idée, on n'est pas là pour être pro ou d'un autre côté, mais plutôt de rappeler qu'il y a des gens qui souffrent de chaque côté. Hein.
Oui, des deux côtés, les gens souffrent et je trouve que c'est important en fait qu'on puisse trouver un terrain d'entente entre les deux parties, donc du côté israélien et du côté palestinien. Et je trouve ça hyper important, en fait, que les deux côtés soient égaux, on va dire. Les deux côtés soient... Et une part d'humanisation, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, alors on comprend tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont envie de rebondir. Je vois Mariana qui hoche de la tête depuis tout à l'heure, depuis nos échanges. Est-ce que vous avez envie de porter votre avis sur ce thème de l'histoire, finalement, qui peut être un peu général, hein, mais notamment sur les conflits ou pas ? Mariana, on vous écoute.
Alors, moi, je suis d'accord avec ce que dit Fiona. Quand je vois aussi tout ce qui se passe entre la Palestine et puis l'Israël, hein, c'est de ça que tu parlais, ça me touche particulièrement. Tout ce qui est... Enfin, tous les conflits me touchent beaucoup. Et je suis assez d'accord avec ce que dit Fiona. C'est pour ça que j'hoche de la tête.
Oui, mais c'est bien de valider. D'ailleurs, des conflits, on en a beaucoup. Alors, si on prend quelque chose un peu plus général, sans rentrer dans un duel, finalement, dans un débat pro ou contre, non. Mais finalement, comment on pourrait faire en sorte que l'histoire s'écrive autrement ? Quelles seraient les pistes ? Finalement, on reproduit clairement certainement des erreurs du passé, ou en tout cas, on n'apprend peut-être pas de nos erreurs du passé. Mais qu'est-ce qu'on pourrait, là, on a quand même un tabelle autour de la table d'aînés et intergénérationnels et de jeunes. Qu'est-ce que vous auriez envie de proposer pour finalement arriver à modifier notre fonctionnement répétitif dans cette histoire ? Fiona, vous écoute.
Je voulais juste rebondir sur... on n'est pas du tout pro pour un parti de l'autre. Je voulais juste parler de ce conflit. Je ne suis pas du tout on va dire, antisémite. Ou, je suis là vraiment pour parler de ça, neutre.
Ouais, mais vous avez raison de le faire remarquer. C'est pour ça que j'ai appuyé, parce que je savais très bien qu'il en était. Mais des fois, quand on ne le dit pas, on peut être un peu dans l'ambivalence de se dire, tiens, comme ça, on coupe toute ambivalence. Mais pour revenir à cette question que je viens de poser, comment on pourrait améliorer ce monde ? Et puis que finalement, on écrive l'histoire autrement. On vous donnera la parole après. J'ai envie on a Sabine. Bonjour Sabine.
Bonjour.
Vous, alors avec le respect que j'ai, certainement, on n'a pas très loin de l'âge d'écart quand même, quelques heures de vol peut-être pour vous en plus. Mais comment vous positionnez-vous entre cette évolution de votre enfance et de ce qu'on vit aujourd'hui d'un point de vue géopolitique et ma question de départ, selon vous, comment on pourrait améliorer à réécrire l'histoire autrement ?
Moi, mon enfance, je la trouvais tellement bien parce que on n'avait pas tout ce qu'on a maintenant, les moyens, et on jouait avec des choses simples de la vie. Et il y avait beaucoup plus de respect qui amène. Et je trouve que s'il y aurait plus de respect, d'honnêteté, je verrais le monde qui irait beaucoup mieux.
Avec plus de respect, plus d'honnêteté, et puis aussi peut-être un peu moins de surstimulation, parce que quand vous disiez tout à l'heure, nous on jouait à des choses simples, on était un peu plus terre à terre en parlant comme ça. Peut-être qu'une des pistes, ce serait de peut-être éviter qu'on soit dans ce monde de surmédiatisation, de surinvestissement industriel et tout ça. Peut-être ça peut être une piste pour réécrire, c'est diminuer ou mieux canaliser auprès de notre jeunesse. Alors merci Sabine, alors on va rebondir après avec Roberta. Bonjour Roberta.
Oui, bonjour.
Fait plaisir de vous avoir autour de la table. Vous avez envie de réagir, de rebondir comment ?
Alors, par rapport à la question de comment mieux faire,
oui.
Je dirais que le secret est de rester, de se rendre conscience que la vie est un éternel apprentissage, qu'on n'a pas toutes les réponses, on n'est jamais, c'est jamais noir ou blanc, tout est paradoxal c'est bien de continuer d'apprendre, écouter et accepter.
Eh ben merci d'avoir partagé avec nous. Moi, je suis d'accord avec vous. On doit apprendre, on doit écouter, on doit se remettre en question. Finalement, apprendre à se redéfinir. Oui. Merci beaucoup. Mathéo, vous aviez envie de rebondir tout à l'heure. On va vous redonner un micro.
Alors c'est vrai que la question est complexe, surtout dans la direction actuelle qu'on prend. Ça paraît dur des fois de corriger le tir, on va dire. Mais c'est vrai qu'avant tout, pour moi, c'est une histoire d'empathie, de se mettre à la place des autres et puis d'essayer de comprendre. Parce que beaucoup de choses, c'est seulement des gens qui ne comprennent pas. Moi, je pense que mon avis, c'est que je serais né à la place d'à peu près n'importe qui sur Terre, à sa place, et j'aurais eu exactement la vie qu'il est en train de mener. Donc c'est un petit peu facile de juger celui qu'on connaît pas bien, et puis de juger son comportement, de dire que c'est sa nature qui l'a rendu comme ça, peut-être malveillant ou méchant. Il y a des personnes qui sont méchantes, entre guillemets, mais c'est toujours, pour moi, après c'est qu'une théorie, mais pour moi c'est simplement ce que cette personne a traversé, ce qu'elle a vécu, et puis on n'en choisit pas tant que ça ce qu'on est. Il faudrait après essayer de se mettre à la place des autres un petit peu à un moment donné, quoi, et d'arrêter de... Parce que comme on dit, la haine, elle attire la haine, et puis c'est un cercle vicieux, et la seule manière de le couper, c'est... Moi, des fois, pour dire, je vis en me disant, si tout le monde vivait de la même façon que moi, est-ce que ce serait une bonne chose ou est-ce que ce serait une mauvaise chose ? Est-ce qu'on arriverait à bien vivre ou on vivrait moins bien ? Et j'essaye toujours, c'est une phrase qu'on dit quand à des enfants, hein, quand ils sont petits, est-ce que t'aimerais qu'on te fasse ça à toi ? Est-ce que, et il y a plein de choses où même moi j'ai fait des erreurs où je me rends compte que j'aurais pas aimé me retrouver à la place de la personne en face. Et après, en ce qui concerne plus les guerres et la politique, je pense que c'est aussi pas mal une histoire d'argent et de capitalisme. Mais voilà, je vais pas dire que je suis communiste, mais non, voilà, mon avis s'arrête là. Après, je vais...
Bah, pour rebondir, Mathéo, moi, ce qui me questionne vraiment, quand Jimmy, vous dites que qu'est-ce qu'on pourrait améliorer actuellement, peut-être, dans un monde idéal, mais de se mettre tous d'accord sur quoi on va se battre. Est-ce qu'on se bat pour du capitalisme? Et au final, j'ai l'impression que ce n'est pas tellement quelque chose qui va nous amener loin. Ou est-ce qu'on se bat pour des problèmes qui sont plus... qui vont toucher toute la planète, donc l'écologie, etc. J'ai l'impression que ce serait un peu plus pertinent de se mettre justement d'accord sur les problèmes de l'écologie. Donc, c'est vraiment questionnant sur quoi on se bat au final.
Alors, on voit que ça laisse un débat quand même bien enflammé. Ah bah, Roberta, vous avez vu Roberta, quand on commence, on ne s'arrête plus.
Oui, c'est vrai.
On vous écoute, Roberta.
J'aimerais revenir sur quelque chose que Mathéo a dit. On choisit pas qui on est, c'est vrai, on choisit pas notre passé, c'est vrai, mais justement c'est avec notre passé et notre entourage qu'on choisit qui on devient.
Exactement, on appelle ça finalement d'une certaine forme la résilience aussi, mais surtout la redéfinition de soi. Est-ce que obligatoirement parce que les mauvais événements ou parce que ce que j'ai eu jusqu'à maintenant me définit comme celui que je suis? Non, ce qui va se définir, c'est finalement comment j'apprends tout ça et comment je me projette pour la suite et comment je veux être pour la suite. Fiona,
je trouve que ce qu'on a vécu, que ça dure ou pas, que ce soit un passé qui nous a vraiment fait du mal, en fait, il faut vraiment prendre ça comme une force. Faut apprendre à prendre ça comme une force, parce que c'est ça qui va nous rendre du coup plus fort, encore une fois. Mais faut pas se laisser abattre.
Merci.
Je pense qu'il faut vraiment.
On va gentiment conclure ce thème. Moi, je vais juste rapporter. Je pense que, alors, on en avait déjà parlé il y a quelques temps en arrière. Une des pistes, ça reste quand même l'éducation de nos jeunes. Je pense que aujourd'hui, on doit revoir la réforme de l'enseignement scolaire. D'ailleurs, je me permets de féliciter et de saluer tous les collaborateurs, collaboratrices ou monsieur et madame tout le monde qui nous écoute. Si vous avez dû prendre le temps de vous réorganiser dans votre journée par rapport à ce matin, parce que vous sachiez, ce matin, l'école a fermé dans tout le Valais. Il y a eu un décret cantonal pour fermer les écoles parce qu'il y avait des risques d'inondation, des risques, on pourrait dire, de cet ordre-là. Donc, ça demande quand même de se réorganiser. Donc, bravo à vous si vous avez réussi à trouver, parce que c'est jamais évident comme ça, du pied levé, de devoir trouver quelqu'un qui vient garder les enfants, changer, s'organiser avec son époux, tout ça. En tout cas, je vous félicite d'avoir su trouver des solutions. Mais c'est un petit coup de gueule pour dire que oui, on peut comme ça du... Alors tant mieux, parce que c'est pour la sécurité. Mais là, on peut du jour au lendemain, en quelques secondes, se dire, hop, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de souci. Mais par contre, de revoir finalement qu'est-ce qu'on apprend dans l'école, qu'est-ce qui est sain. On n'a pas de cours d'éthique. Il y a des choses qui manquent dans ces écoles qui permettraient peut-être d'améliorer ce monde. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants après une chanson proposée par Fiona de Radiohead qui s'intitule Wild Fishes.
Direct.
De retour sur les ondes de Pavillon Nomade. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, donc là nous sommes au moment des rencontres de Marie-Claude Cudry. Donc tous les jeudis, Marie-Claude Cudry va à la rencontre d'une personne qui se raconte autour de Malévo. Aujourd'hui, dernier épisode avec Philippe Rébelet. Philippe Rébelet connaît bien Malévo. Il y a passé une partie de son enfance puisque son père en était le directeur. Philippe est actuellement directeur médical de la Fondation de Nant dans le canton de Vaud. Avec lui, on se pose la question de savoir s'il faut multiplier les hôpitaux psychiatriques.
Les rencontres de Marie-Claude.
Je serais plus ambitieux que ça, moi. J'en ai changé nos modèles de société. Pas à augmenter nos hôpitaux psychiatriques, parce que, voyez, moi, j'ai l'impression que c'est... Sinon, c'est comme nous demander de vider le lac avec une cuillère à café. Hein. Alors, on peut bien prendre une cuillère à soupe, ou on peut bien prendre une louche, mais ça changera rien. Le Rhône, il va continuer à remplir le lac, et puis qu'on ait une louche ou une cuillère à café, ça fera pas beaucoup de différence. Donc, si on revenait à des hôpitaux de 500 lits... ça ne changerait pas le problème. Je ne pense pas que c'est ça du tout la solution. Surtout que l'hôpital du 21e siècle va aussi le transformer. Je pense que là, alors, le quartier culturel, c'est vraiment une petite œuvre d'art là, au milieu pour transformer, ramener de la vie là-dedans. C'est-à-dire qu'on va à l'hôpital pas pour sortir du monde, mais on devrait y venir presque à l'image d'un temps mort sportif. On va faire une pause, on va se ressourcer. Mais on reste dans la vie, on n'est pas en dehors. Le temps mort au sport, il peut être trompeur. Ce n'est pas un temps mort, c'est un temps où on va réfléchir sur ce qui se passe pour mieux revenir dans le jeu. C'est peut-être ça que devrait être un hôpital psychiatrique. Un espace de pensée, un espace de symbolisation, un espace où on peut retrouver quelque chose pour revenir dans le monde.
Mais en vous écoutant, ça veut dire qu'on doit quand même changer un peu notre... curseur au niveau société, parce que l'hôpital psychiatrique reste quand même très lourd, très pesant dans la pensée générale.
Oui, ça c'est vrai, mais ça, probablement parce que simplement la souffrance ou la folie, ça fait peur. Mais je pense, pavillon nomade, le quartier socio-culturel, c'est justement destiné à lutter contre ça, c'est-à-dire de faire que l'hôpital soit un lieu accueillant, soit un lieu reposant, soit un lieu d'échange, et pas un lieu médicalisé où on doit aller vite. Hein, parce que c'est aussi une des pressions qu'on a sur nos hôpitaux contemporains. On est obsédé par la vitesse. Mais par moments, on va tellement vite dans nos hôpitaux qu'on est plus pressé par l'entrée et la sortie que par le processus qui devrait se passer entre l'entrée et la sortie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui transforme la souffrance en quelque chose d'autre, en quelque chose de plus vivable. Donc, dans ce sens-là, je ne pense pas qu'il faille agrandir nos hôpitaux. Peut-être que d'avoir un peu plus de lits, mais ou d'être moins pressé, c'est ça qui nous serait nécessaire. Le temps du psychisme, ce n'est pas le même temps que notre temps médiatique ou le temps de nos sociétés contemporaines.
C'est quoi le temps du psychisme pour vous ?
Si je regarde, puisque dans ma formation, tout psychiatre, on doit faire un travail personnel. Moi, j'avais fait une longue psychanalyse. Mais si je regarde les années qu'il m'a fallu pour faire un travail intérieur, pour tenter de changer, puis je ne suis même pas sûr que j'ai pu changer quoi que ce soit, et puis en ayant plutôt de ce côté-là été gâté, c'est-à-dire en ayant certains moyens pour ça, on s'aperçoit que c'est sacrément compliqué de changer des choses pour soi-même. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse transformer des troubles graves comme ça, d'un claquement de doigts. Donc le temps du psychisme, il est souvent fait de répétition. On doit pouvoir, quelque part, par moment, des fois, agir ce qu'on n'arrive pas à penser, pour peu à peu pouvoir le penser, puis agir différemment. Et ça nécessite du temps. Ça ne se réduit pas. Ce n'est pas quelque chose qui va se résoudre à coup de quelques pilules bleues, rouges, vertes, ou je ne sais quoi, ou d'une technique spécifique. C'est vraiment de pouvoir créer un environnement qui permette, qui autorise ce changement.
Un modèle comme le quartier culturel à Malévo est-il un modèle exportable ? Est-ce qu'on pourrait imaginer un quartier culturel ici à la Fondation de Nantes ?
J'aurais presque envie de vous répondre, ça devrait être une obligation. Oui, oui bien sûr. Alors après, comme toujours, il y a une question de moyens. Il est clair que si j'avais les moyens, demain il y aurait un quartier culturel ici. Ça, c'est une évidence pour moi. C'est vraiment ça. Je pense que c'est dans ce sens-là, ce qui a pu être créé là, j'allais dire ce repère de vie comme ça au milieu de l'hôpital, de mélange. On retombe là dans des choses historiques qu'on avait pu connaître dans l'histoire de la psychiatrie. Ça me fait penser comme ça en vous parlant à ce qu'avait fait Toscoles, qui était un des grands psychanalystes catalans, qui était venu en France à Saint-Alban au moment de ce qu'on a appelé le courant de psychothérapie institutionnelle, qui était l'idée d'un traitement qui devait inclure aussi la société, qui devait inclure des tas de composantes, pas uniquement une approche médicale de la folie. Et puis il avait créé, au fin fond de la Lozère, c'était dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, un repère où il y avait des résistants, il y avait des surréalistes, il y avait les patients, tout le monde était ensemble, dans un espèce de creuset de vie comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que tout était rose, c'était en pleine Deuxième Guerre mondiale, c'était des conditions qui étaient... Il est arrivé là, les gens étaient à l'abandon, il ne faut pas oublier qu'on a eu des dizaines de milliers de morts dans les hôpitaux psychiatriques durant cette période-là. Mais là, il y a eu des choses qui ont émergé. Puis le quartier culturel me fait penser à quelque chose de cet ordre-là, qui vient insuffler de la vie, un espèce d'accueil inconditionnel pour les personnes en souffrance. Pour moi, c'est quelque chose qui réhabilite une dimension asilaire, mais vraiment dans le sens de donner asile, d'être accueillant.
Voilà, donc cette dernière rencontre avec Philippe Rébelet était proposée par Marie-Claude Cudry et vous retrouverez l'intégralité de cet entretien sur le site de pavillonnomade.ch. Donc là, on a entendu plusieurs choses, repenser le modèle de société, l'hôpital du 21e siècle, le temps de réfléchir à l'hôpital, d'avoir un espace de pensée. On a aussi entendu la folie, ça fait peur. Le temps d'être à l'hôpital, qu'est-ce qu'on peut changer ? Lui proposait, Monsieur Rébelet, d'être dans la répétition, pas forcément les pilules, la médication. Et puis, bien sûr, le fameux quartier culturel à Nantes, ce serait super pour insuffler la vie. Alors, qu'est-ce que ça suscite autour de la table d'avoir entendu tout ça, Eliane ?
J'aime beaucoup cette personne et sa manière de s'exprimer. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, si on a mal à la tête, on prend un médicament et dans les 20 minutes, ça a beaucoup mieux. Par contre, dans la dépression, le problème, on est déjà très mal. Et en plus, on doit attendre 3 semaines minimum pour que les médicaments fassent effet.
Exactement.
Voilà. Mm-hmm.
Oui, parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, quand on introduit par exemple une médication lorsqu'on souffre de dépression, donc on aura toujours un antidépresseur et une médication de benzodiazépine qui va être accompagnée, parce qu'on a une fenêtre thérapeutique à respecter le temps que l'antidépresseur fasse effet. Donc ça rajoute du temps, de la médication. Et puis comme vous dites, justement, le délai, c'est pas juste... un médicament par la bouche et dans une heure, ça va mieux. Effectivement, c'est sur le long terme. Est-ce que ça suscite Mathéo ? Oui ?
Moi, ça m'a fait penser au début quand elle demandait, je crois, la première question, c'est est-ce qu'il faudrait avoir plus d'hôpitaux psychiatriques ? Et qui disait que c'était une histoire de société, je ne sais plus, pendant un an, là. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'avait assez marqué. Et c'était que, en fait, les gens qui venaient ici, ça démontrait pas que c'était les gens qui étaient malades, c'est une société qui était malade. Et je pense que c'est vrai que si le problème, faut le régler aussi à la source. Après, d'un autre côté, c'est pas parce que on règle le problème à la source qu'on peut pas améliorer aussi les conditions dans les hôpitaux psychiatriques, mettre plus d'importance, avoir peut-être plus d'argent. De l'État, ou je sais pas exactement les budgets, comment ça fonctionne, mais je pense qu'il y a aussi quand même un certain manque de il y a quand même des problèmes, évidemment, selon moi, et je pense que je sais pas qui pourrait me contredire ici, mais si vous venez ici et puis que vous êtes soigné à 100% par 5 personnes qui sont consacrées qu'avec vous, ça ira plus vite que si c'est une personne qui vient vous voir une heure par jour. Donc il y a forcément aussi un problème à ce niveau-là. Mais, enfin, après, moi, j'ai travaillé de l'autre côté, donc au quartier culturel, ils en parlent aussi. Et ça, je pense que ces infrastructures aussi, comme ils disaient, c'est hyper bien que de traiter uniquement traditionnellement le problème, ou la radio, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est aussi varier les thérapies et que les gens puissent choisir au final ce qui leur fait du bien. Il n'y a personne, je pense, qui sait mieux que soi-même ce qui aide.
Vous avez raison, Mathéo, sur une réalité. Finalement, quand on parle de soins, de traitement, on prend en règle générale, on dit que sur 100%, 30%, on peut l'imputer le lié à la médication. Hein, parce que quand on a des symptômes, des prodromes qui nous empêchent peut-être de fonctionner, il faut déjà venir les canaliser. Mais les 70%, c'est toute cette approche qui est... on pourrait dire d'une part soit paramédical, soit au niveau de la psychothérapie. Mais pour ça, il faut, vous avez raison, malgré tout, de l'argent, parce qu'il nous faut du personnel. Hein. Aujourd'hui, le problème que dit le docteur Rebellet d'ouvrir plus d'hôpitaux, non, je pense que ce n'est pas d'ouvrir plus, c'est déjà de donner les moyens à ceux qui sont là, qui existent, de pouvoir fonctionner correctement. Aujourd'hui, démographiquement, je suis arrivé à Malévaux en 2005, c'était des champs autour, hein, et comme il le décrivait, je crois que c'était dans l'opus numéro 5, Malévaux, les mauvais eaux, où il expliquait qu'on mettait l'hôpital loin, un petit peu loin. Aujourd'hui, ces champs se sont transformés en immeubles, en personnes qui habitent et une population qui a grandi et qui a besoin de soins, de structures. Alors là, je fais appel, il n'y a pas que seulement la structure, il y a aussi tous les besoins qu'une société doit avoir, plus de crèches, plus d'autres services qui sont manquants. Anaïs ?
Tout à fait, Jimmy. Et puis là aussi, M. Rebellet soulevait un autre problème, c'est le fait d'avoir un manque de temps. Donc aujourd'hui, on est toujours dans la course, le plus vite possible, avoir justement des prestations de soins qui soient le plus rapidement possible. Mais il y a quand même un temps de transition, de processus, de guérison, un temps de rétablissement à avoir. Et puis, il y a aussi une autre question qui se soulève, c'est que
Bah, quand vous disiez que Malévo était un endroit reculé, si j'ai bien compris, je me rappelle que j'avais entendu que, par exemple, il y avait eu un sondage dans la société. Est-ce que vous seriez d'accord, dans votre quartier, d'avoir à côté de chez vous un centre, par exemple, ambulatoire de psychiatrie ? Et très vite, ça sollicite la peur. On a peur d'avoir un centre psychiatrique à côté de chez soi parce que on se fait une idée de la psychiatrie. Donc, effectivement.
Oui, et puis la proximité, on a besoin de cette proximité, mais je pense que c'est par méconnaissance. Et là, peut-être que Pavillon Nomade ouvre des portes, finalement décloisonne un petit peu ces pensées que la société peut avoir de oui, l'hôpital psychiatrique, c'est que des gens qui sont complètement un peu à l'instar de ce qu'on peut trouver dans des films, des serial killers, des psychopathes. Non, on est tous des êtres humains avec nos valeurs. Et puis, on a de quoi se positionner, se dire non, n'ayez pas peur, venez, le parc est ouvert, le parc est libre. C'est un parc public, magnifique parc, Pavillon Nomade. Vous pouvez aussi venir, auditeur, auditrice, nous découvrir. On va peut-être, Anaïs, oui. Je ne sais pas si...
Alors, effectivement, Eliane, vous aviez peut-être quelque chose à rajouter.
Effectivement, j'avais envie de... Je pense être dans le lieu idéal pour échanger avec vous sur ma dernière hospitalisation.
Alors, Eliane, on en a pour combien de temps ? Parce que je suis loin de là de vous faire...
Non, mais je peux tout à fait garder ce sujet... pour une autre fois.
Parce que alors moi ce que je vous propose c'est que j'ai pas envie de brider mais on a encore un témoignage qu'on va devoir traiter. Donc on garde ça Eliane, on se retrouve de toute manière tous les jeudis. On va la garder en boîte. Anaïs.
Alors, on va se retrouver dans un court instant après un moment de musique.
Direct.
de retour sur les ondes de Pavillon Nomade. Il est exactement 16h25. Après cette chanson de Run DMC de Walk, qui s'intitule Walk This Way, dédicace de Joël. Alors, dédicace de Joël pour Mathéo, mon petit cornichon. Matt, une dédicace qui mélange du rap et du rock and roll. Tu vas beaucoup me manquer, que la vie te réserve de belles surprises et beaucoup de réussite. Ta vieille tata Jojo, l'astico de la buvette.
Merci Joël. Merci Joël, t'es la meilleure, t'es la meilleure. Merci d'ailleurs pour ce que tu m'as préparé pour l'apéro après. Je tiens à signaler, tous ceux qui nous entendent, venez. Apéro à 17h à la buvette. Tout le monde est le bienvenu pour mon grand départ.
Alors, on sera là. J'essaierai de passer vite en remontant. Merci Mathéo encore. Et pour nos auditeurs et auditrices qui nous rejoignent, on a eu une émission hyper intéressante. On est parti de l'interview de Mathéo, de l'histoire aussi, finalement, de comment améliorer ce monde, le dernier opus de Marie-Claude. Et on arrive à notre dernière. Aujourd'hui, on a Mariana qui vient nous faire un petit témoignage. Bonjour Mariana.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous avoir autour de la table. Alors, auditeur, auditrice, vous ne pouvez pas la voir, mais elle a un grand sourire. Alors, elle m'a dit tout à l'heure qu'elle stressait un peu, ça ne se voit pas. Mais Mariana, vous savez quoi, ça va bien se passer, on vous écoute.
Oui. Alors, j'ai préparé un petit témoignage sur mon histoire. Ben, je vais commencer, du coup. Donc, depuis l'enfance, ma vie, elle a été marquée par la douleur. J'ai grandi avec la violence, l'harcèlement, l'instabilité et un sentiment constant de solitude. Très jeune, j'ai appris à me taire, à encaisser, à faire semblant d'aller bien. Mais au fond, j'étais juste une enfant qui rêvait d'être aimée. Et j'ai rencontré une personne qui a tout changé. Une femme qui m'a appelée, qui m'a apporté et donné une forme d'amour que je n'avais jamais connue. On parlait de vivre ensemble, de projets d'avenir. Avec elle, j'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé une famille, un repère, un sens. Pour la première fois, je ne me sentais plus seule. Mais aujourd'hui, ce lien s'est brisé. Je sais qu'elle a ses raisons, ses souffrances aussi. Je ne lui en veux pas, mais pour moi, son absence est une vraie douleur. C'est comme si une partie de moi s'était effondrée. Je vis avec un trouble borderline, ce qui rend mes émotions instables. Parfois même, une journée qui commence bien peut tourner en une tempête intérieure. J'ai souvent du mal à gérer ce que je ressens, et dans mes relations, j'ai tendance à m'attacher très fort, même trop fort, à vouloir la personne pour moi, à tout partager, même mes douleurs, et parfois sans m'en rendre compte. J'étouffe l'autre. Et je le comprends aujourd'hui. Malgré mes erreurs, mes souffrances, dans mon cœur, elle reste maman. Et me manque énormément. J'espère qu'un jour, quand elle ira mieux et moi aussi, que j'aurai avancé, on pourra se retrouver, peut-être reprendre là où tout s'est arrêté, parce que pour moi, ce lien compte vraiment.
Ben merci, je pense qu'on peut applaudir ce magnifique témoignage. Merci Mariana de nous avoir fait vivre cet instant comme ça qui s'est un peu arrêté. J'ai un peu senti dans ce texte finalement, sur cette première question que je pourrais poser à tout le monde, hein, de se dire finalement il y a des liens qui se font, des liens qui se désunissent, hein, quand on dans le parcours de vie, et des fois on a des gens qu'on rencontre qui sont, comme vous l'avez décrit, des gens qui viennent marquer notre vie, et puis des fois on perd contact ou on s'éloigne. Mais comment on pourrait renouer contact? Comment on pourrait reprendre contact avec les gens qu'on a perdus ou qu'on n'a plus? Je ne sais pas. Qui aurait envie de rebondir déjà cette question? Bah, Mariana, on vous écoute.
Alors moi, je dirais que déjà, bah, moi, pour ma situation à moi, ça serait de laisser le temps. Laisser le temps faire les choses, laisser la personne prendre le temps de prendre conscience de ses raisons, du pourquoi elle s'est éloignée, et ne pas culpabiliser et ne pas se dire que c'est de notre faute. Et pas non plus d'attendre que la personne revienne, parce que ça va nous faire souffrir, mais d'avancer malgré tout et de continuer notre chemin. Et si cette personne, elle veut revenir, et ben de l'accepter, mais en discutant et puis en essayant de comprendre pourquoi ce lien s'est brisé à ce moment-là.
Merci. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a envie de rebondir ou de partager sur ce fameux témoignage que nous a proposé Mariana. Mathéo.
Ben, moi, je dirais que c'est c'est assez vrai ce qu'elle a dit. Moi, ce qui est important, je pense, c'est de dire les choses. Parce que des fois, on ne sait pas, on a l'impression que c'est l'autre qui nous en veut et nous, l'autre a l'impression que c'est nous qui en voulons à l'autre. Et que je pense que c'est important de parler, de dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a sur le cœur à la personne en face, même si elle veut, elle n'a plus envie, elle, de nous parler, au moins qu'elle le sache. Elle n'a pas besoin de nous répondre, elle a juste besoin de le savoir. Et puis après, comme elle l'a dit, laisser le temps faire. Et peut-être qu'un jour, elle s'en rendra compte, peut-être qu'elle changera d'avis. Et faut pas, voilà, je pense que ça s'arrête là. Après, faut laisser le temps faire et pas trop non plus trop essayer de, si ça doit pas se faire, ça se fera pas, et c'est peut-être une bonne chose pour nous parce que c'est une personne qui apparemment n'était pas si importante, on n'était pas si importante à ses yeux. Et voilà, accepter la vie comme elle vient.
Ouais, vous avez raison. L'important, c'est de pouvoir exprimer son ressenti et de ne pas rester frustré, de dire « j'ai pas pu lui dire ». Finalement, l'autre, il va prendre comme il le prend, selon son expérience de vie, selon ses valeurs, selon ses repères ou modèles. Et puis, ça lui appartient de faire le chemin. Mais en tout cas, déjà, de pouvoir communiquer, exprimer à l'autre ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Et puis, l'autre, à lui de faire le temps qu'il faudra, le cheminement propre à lui-même. On a... Rappelez-moi votre nom, parce qu'on n'a pas le petit... Bonjour madame.
Alors moi je m'appelle Christelle.
Merci Christelle, bonjour.
Et
Christelle,
j'aimerais rebondir sur ce sujet. Donc il y a des personnes dans nos vies qui nous effleurent et des personnes qui nous marquent au niveau de notre identité. Et je pense aussi aller plus loin que ça. Je pense qu'il y a des liens qui se forment au niveau de l'âme. Et moi ça a été mon cas en 2016, j'ai rencontré une fille. Que je connaissais déjà de manière superficielle. On a tissé un lien, moi qui n'ai pas eu la chance d'avoir un lien fraternel avec mon frère qui a un handicap mental. Du coup, c'était ma sœur, ma petite sœur. Et ça a été compliqué, parce dans des contextes hospitaliers, il y a des blessures, des contextes autres, qui a fait qu'on a une amitié d'une année, on était très proches. Et il y a une cassure. Et encore aujourd'hui, quand j'en parle, ça suscite beaucoup d'émotions. Et je pense qu'il y a certains liens, quand ça compte à ce point-là, ça compte toujours. Et je pense que, oui, il ne faut pas attendre que l'autre soit dans l'attente. Mais après, c'est normal d'en souffrir et c'est normal de le verbaliser. Et aussi par rapport à la personne. Moi, je peux travailler sur ces blessures-là parce que l'autre est notre miroir. Mais par contre, concernant l'autre personne, c'est à elle de travailler sur elle-même et on ne peut pas faire le travail à sa place. Voilà, tout simplement. Et j'aimerais dire aussi, je peux dire juste son prénom, si tu m'entends, Céline, sache un jour, si tu as besoin de parler, ma porte est ouverte. Voilà.
Merci, j'espère qu'elle aura l'occasion d'entendre votre main tendue. Merci d'avoir pris le temps de témoigner, Christelle aussi. Alors si comme Christelle, vous avez envie de rejoindre, alors on arrive gentiment à la fin de notre émission, mais si comme Christelle, vous avez envie de rejoindre en vol l'émission, c'est tous les jeudis de 15h30 à 16h30 sur Pavillon Nomade. Vous retrouverez tout l'entièreté de cette émission en rediffusion. Mais je me retourne vers Mariana. Mariana, après ces échanges qui peuvent être une porte ouverte à beaucoup de discussions, dans la préparation de l'émission, j'ai cru comprendre que vous étiez vous aussi musicienne, et puis que vous jouiez du piano, de la guitare, et puis vous êtes venue aussi avec un extrait musical de votre composition, si j'ai bien compris.
Oui, c'est un extrait que j'avais écrit quand j'étais justement chez cette personne qui était ma maman de cœur. Et je l'avais créé, je lui avais fait écouter. Et je pense que si elle m'écoute, si elle va l'entendre, qu'elle va se souvenir que je l'ai écrit chez elle. Et j'aimerais aussi lui dire que je lui laisse le temps. Et que je l'aime énormément, et que même si on n'a peut-être pas... peut-être que moi, je l'ai pris pour ma maman de cœur, et peut-être qu'elle m'a pris que pour une amie, je voulais lui dire que je ne lui en voulais pas aujourd'hui, et que j'étais prête à l'attendre, ou même à ce qu'on ne se parle plus pendant un certain temps, mais que si elle a besoin, je suis là, et elle a toujours mon numéro.
Alors, merci. J'avais aussi une question à vous poser parce que c'est quand même un peu particulier. Vous m'avez dit, vous êtes musicienne, et puis finalement, ce morceau a été composé par vos textes que vous avez écrits vous-même, mais que vous avez proposé à une intelligence artificielle de composer la musique et de mettre la voix dessus parce que vous n'avez pas réussi à le mettre. Mais comment vous êtes arrivé à avoir l'idée de se dire, bah, finalement, je suis musicienne, et c'est un petit peu étonnant comme musicien, mais se dire, allez, je vais faire produire ce morceau-là par une intelligence artificielle.
Alors, en fait, vous verrez dans la musique, hein, y a une histoire aussi. Ça parle aussi de mes blessures, de quand j'étais plus jeune. Et ça parle de mon passé. Et à ce moment-là, j'ai été sortie d'une hospitalisation à Malévo. Et je me suis dit, pourquoi pas dire aux gens ce que j'ai vécu. Et comme j'aime beaucoup la musique, pourquoi pas écrire. Et j'ai vu un programme sur Internet, donc j'ai mis mes paroles et ça m'a fait une mélodie et ça m'a créé la musique, donc voilà.
Bah, je vous remercie en tout cas de nous faire partager ce morceau. On va se quitter avec cette musique. Est-ce que vous lui avez donné un titre à cette chanson ?
Elle s'appelle « Reflet brisé ».
Alors, on va se quitter sur la chanson de Mariana, composé avec l'aide d'une intelligence artificielle et qui s'intitule « Reflet brisé ». Merci auditeurs et auditrices d'avoir passé cet après-midi en notre compagnie. Vous retrouverez l'intégralité de cette émission sur pavillonnomade.ch. Et si, comme Mariana ou tous les autres présents, vous avez envie de venir participer, vous présentez les jeudis à 15h au studio du Pavillon Nomade et on construit l'émission avec vous. À bientôt.
J'ai grandi sans un vrai sourire, les bras levés mais sans avenir. Des mots qui blessent, des coups qui marquent. J'avais personne pour me défendre. Dans ses yeux c'était tout noir, pas d'amour, pas d'espoir. Et lui restait là sans rien dire, comme une ombre, comme un soupir. Ça ira, mais les mots ne tiennent pas. On m'a appris à faire semblant, à cacher les larmes sous le vent. J'ai crié dans le vide, mais personne ne m'a vu. J'ai tendu mes bras, ils sont restés suspendus. J'ai marché sous la pluie.
Le direct.